Je voudrais dire la dernière fois, c'est clos, je crois, subjectivement, dans le silence qui a répondu à mon propos, personne n'ayant, semble-t-il, gardé le sang-froid de me couronner, même d'un léger applaudissement. Ou je me trompe, ou après tout, ce n'est pas trop d'y voir le résultat de ce que j'avais expressément annoncé en commençant ce propos. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible d'aborder de front l'angoisse de la castration sans en provoquer, disons, quelque écho. Et après tout, ce n'est pas la prétention excessive, puisque ce que je vous ai dit est, de somme toute, quelque chose que l'on peut qualifier de pas très encourageant, puisque s'agissant de l'union de l'homme et de la femme, problème quand même toujours présent, et dont c'est à juste titre qu'il a toujours, que j'espère qu'il rentre encore, préoccupation du psychanalyste. Jones a tourné longuement autour de ce problème matérialisé, incarné par ce qui est supposé, impliqué par la perspective phallocentrique de l'ignorance primitive, non seulement de l'homme, mais de la femme elle-même, concernant le lieu de la conjonction, le vagin. Et tous les détours, en partie féconds, quoique non achevés, qu'a parcouru Jones sur cette voie, montre très bien leur visée quand il invoque, je veux les rappeler en son temps, le fameux « il les créa hommes et femmes » au reste si ambigu. Car après tout, on peut bien le dire, Jones n'a pas médité ce verset 27 du livre 1 de la Genèse sur le texte hébreu. Quoi qu'il en soit, pour essayer de faire supporter ce que j'ai dit la dernière fois sur un petit schéma fabriqué sur l'usage des cercles eulériens, ça pourrait se supporter ainsi. Le champ couvert par l'homme et par la femme, dans ce qu'on pourrait appeler au sens biblique leur connaissance l'un de l'autre, ne se recoupe qu'en ceci, que la zone où, elle, où il pourrait effectivement se recouvrir. Où leur désir les porte pour s'atteindre. Se qualifie par le manque de ce qui serait leur médium. Le phallus, c'est ce qui, pour chacun, quand il est atteint, justement, l'alien de l'autre. De l'homme, dans son désir, de la toute-puissance phallique, la femme peut être naturellement le symbole. C'est justement en tant qu'elle n'est plus la femme. Et quant à la femme, il est bien clair. Par tout ce que nous avons découvert, ce que nous avons appelé pénis naïde, qu'elle ne peut prendre le phallus que pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, soit petit a, l'objet, soit son trop petit fils à elle, qui ne lui donne qu'une jouissance approchée de ce qu'elle imagine de la jouissance de l'autre, qu'elle peut sans doute partager par une sorte de fantasme mental, mais qu'à aberrer sur sa propre jouissance. En d'autres termes, elle ne peut jouir de fille que parce qu'il n'est pas à sa place. À la place de sa jouissance, où sa jouissance peut se réaliser. Je vais vous en donner une petite illustration, un peu brûlante, tant bien latérale, mais actuelle. Dans un auditoire comme celui-ci, combien de fois nous, analystes, combien de fois, au point que ça devient une constante de notre pratique, les femmes veulent se faire psychanalyser comme leur mari, et souvent par le même psychanalyste. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'est que c'est le désir supposé couronné de leur mari qu'elles ambitionnent de partager. Le moins fi, la repositivation du fi qu'elles supposent s'opérer dans le champ psychanalytique. Voilà à quoi elles ambitionnent d'accéder. Que le phallus ne se trouve pas là où on l'attend, là où on l'exige, savoir sur le plan de la médiation génitale, Voilà ce qui explique que l'angoisse est la vérité de la sexualité. C'est-à-dire ce qui apparaît chaque fois que son flux se retire, montre le sable. La castration est le prix de cette structure. Elle se substitue à cette vérité. Mais en fait, ceci est un jeu illusoire. Il n'y a pas de castration parce qu'au lieu où elle a à se produire, il n'y a pas d'objet à castrer. Il faudrait pour cela que le phallus fût là. Or, il n'est là que pour qu'il n'y ait pas d'angoisse. Le phallus, là où il est attendu comme sexuel, n'apparaît jamais que comme manque, et c'est cela son lien avec l'angoisse. Et tout ceci veut dire que le phallus est appelé à fonctionner comme instrument de la puissance. Or, la puissance, je veux dire ce dont il s'agit quand nous parlons de puissance. Quand nous en parlons d'une façon qui vacille de ce dont il s'agit, car c'est toujours à la toute-puissance que nous nous référons. Or, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La toute-puissance est déjà le glissement, l'évasion. Par rapport à ce point où toute puissance défaille. On ne demande pas à la puissance d'être partout. On lui demande d'être là où elle est présente. C'est justement parce que là, où elle est attendue, elle défaille, que nous commençons à fomenter la toute-puissance. Autrement dit, le phallus est présent. Il est présent partout où il n'est pas en situation. car c'est la face. Qui nous permet de percer cette illusion de la revendication engendrée par la castration. En tant qu'elle couvre l'angoisse présentifiée par toute actualisation de la jouissance, c'est cette confusion de la jouissance avec les instruments de la puissance. L'impuissance humaine avec le progrès des institutions devient mieux que cet état de sa misère fondamentale. Elle se constitue en profession. J'entends profession dans tous les sens du mot. Depuis le sens profession de foi jusqu'au terme à la visée que nous trouvons dans l'idéal professionnel. Tout ce qui s'abrite derrière la dignité de toute profession, c'est toujours ce manque central qui est impuissance. L'impuissance, si l'on peut dire dans sa formule la plus générale, c'est celle qui voue l'homme à ne pouvoir jouir que de son rapport au support de plus fi, c'est-à-dire d'une puissance trompeuse. Si je vous rappelle toute cette structure, qui n'est rien que la suite que j'ai articulé la dernière fois, c'est pour vous amener à quelques faits remarquables qui contrôlent la structure ainsi articulée. Ce fameux terme de l'homosexualité et dans notre doctrine, notre théorie, la freudienne, est mise au principe du ciment social. Observons que Freud a toujours remarqué, n'a jamais soulevé là-dessus un doute, quel est le privilège du mâle. Ciment libidinal du lien social en tant qu'il ne se produit que dans la communauté des mâles est lié à la face d'échec sexuel qui lui est du fait de la castration tout spécialement d'un parti. Par contre, l'homosexualité féminine a peut-être mais aucune valeur de fonction sociale. Parce qu'elle se porte, elle, sur le champ propre de la concurrence sexuelle, c'est-à-dire là où en apparence elle aurait le moins de chances de réussir. C'est justement dans ce champ, ceux qui ont l'avantage, c'est ceux justement qui n'ont pas le phallus. À savoir que la toute-puissance, la plus grande vivacité du désir, se produit au niveau de cet amour qu'on appelle uranien. Quand je crois dans son lieu, avoir marqué l'affinité la plus radicale avec ce qu'on appelle l'homosexualité féminine. Amour idéaliste, présentification de la médiation essentielle du phallus comme moins phi. Ce phi, donc, pour les deux sexes, c'est ce que je désire, et que je ne puis avoir qu'en tant que moins phi. C'est ce moi qui se trouve sur le champ de la conjonction sexuelle, être le médium universel. Être ce moi, cher Raboul, non point hegelien, réciproque, mais en tant se constitue au champ de l'autre comme manque. Je n'y accède que pour autant que je prends cette voie même. Je m'attache à ceci. Que ce jeu me fait disparaître. Que je me retrouve que dans ce qu'Hegel, bien sûr, a aperçu, mais qu'il motive sans cet intervalle, que dans un petit tas généralisé, que dans l'idée du moi en tant qu'il est partout, c'est-à-dire qu'il n'est plus nulle part, le support du désir n'est pas fait pour l'union sexuelle. Car, généralité, il ne me spécifie plus comme homme ou femme, mais comme l'un et l'autre. De ce champ, ici décrit comme celui d'union sexuelle, pour chacun des deux sexes l'alternative. L'autre est ou l'autre, ou le phallus au sens de l'exclusion. Ce champ-là est vide. Mais ce champ-là, si je le positive, le « ou » prend cet autre sens, qui veut dire que l'un à l'autre est substituable à tout instant. Et c'est pour cela que ce n'est pas par hasard que j'ai introduit le chant de l'œil caché derrière tout l'univers spatial par la référence à ces êtres d'image. Sur la rencontre desquels se joue un certain parcours de salvation, le parcours bouddhiste, nommément, en introduisant celle que je vous ai désignée comme la Kuan Yin, ou autrement, la Balokiteshvara, dans sa complète ambiguïté sexuelle. La Balokiteshvara est présentifié comme mâle, plus il prend des aspects femelles. Je vous présenterai, si ça vous amuse, un autre jour, des images de statues. Ou de peintures tibétaines, elles surabondent. Et le trait que je vous désigne, y est absolument patent. Ce dont il s'agit aujourd'hui, est de saisir comment cette alternative du désir et de la jouissance peut trouver son passage. La différence qu'il y a entre la pensée dialectique et notre expérience, c'est que nous ne croyons pas à la synthèse. S'il y a un passage, là où l'antinomie se ferme, c'est parce qu'il était déjà là avant la constitution de l'antinomie. Pour que l'objet petit a incarne l'impasse de l'accès du désir à la chose, lui livre passage, il faut revenir à son commencement, rien. Qui prépare ce passage. Avant la capture du désir dans l'espace spéculaire, il n'y a pas d'issue. Car n'omettons pas que la possibilité de cette impasse lui-même est liée à un moment qui anticipe et conditionne ce qui vient se marquer dans l'échec sexuel pour l'homme. C'est la mise en jeu de la tension spéculaire qui érotise si précocement et si profondément le champ de l'insight ce qui s'ébauche chez l'anthropoïde du caractère conducteur de ce champ. On le sait, depuis Keller et Yerkes, il n'est pas sans intelligence en ceci qu'il peut beaucoup de choses, à condition que ce qu'il a à atteindre, il le voit. J'ai fait allusion hier soir à ceci, que tout est là, non pas qu'il soit plus que nous, le primate, incapable de parler, mais qu'il ne peut pas faire entrer sa parole dans ce champ opératoire. Mais ce n'est pas là la seule différence marquée en ceci qu'il n'y a pas pour l'animal de stade du miroir, c'est ce qui s'est passé sous le nom de narcissisme, d'une certaine soustraction ubiquiste de la libido. D'une injection de la libido dans ce champ de l'insight. dont la vision spécularisée donne la forme. Mais cette forme nous cache le phénomène qui est l'occultation de l'œil qui désormais devrait, celui que nous sommes, le regarder de partout sous l'universalité du voile. On sait que ça peut se produire. Et c'est ça qui s'appelle l'unheimlich. Mais il y faut des circonstances bien particulières. D'habitude, ce qu'a justement de satisfaisant la forme spéculaire, c'est de masquer la possibilité de cette apparition. En d'autres termes, l'œil institue le rapport fondamental du désirable en ceci qu'il tend toujours à faire méconnaître dans le rapport à l'autre que sous ce désirable, il y a un désirant. Réfléchissez à la portée de cette formule que je crois pouvoir donner comme la plus générale de ce qu'est le surgissement de l'unheimlich, pensez que vous avez affaire au désirable le plus reposant. À sa forme la plus apaisante, la statue divine qui est une divine statue. Quoi de plus unheimlich que de la voir s'animer, c'est-à-dire se pouvoir montrer désirant. Or, non seulement c'est l'hypothèse structurante que nous posons à la genèse du petit A, qu'il naît ailleurs et avant cela. Avant cette capture, il l'occupe. Ce n'est pas seulement un. Cette hypothèse, elle-même fondée sur notre praxis, bien sûr, c'est de là que je l'introduis. Ou bien notre praxis est fautive, j'entends fautive par rapport à elle-même, ou elle suppose que notre champ, qui est celui du désir, s'engendre de ce rapport grand S à grand A, qui est celui où nous ne pouvons le retrouver, si c'est notre but, que pour autant que nous en reproduisons les termes. Où notre praxis est fautive par rapport à elle-même, où elle suppose cela. Ce qu'engendre notre praxis, si vous voulez, c'est cet univers-là, symbolisé au dernier terme dans la fameuse division. Depuis un moment, à travers les trois temps, où l'est sujet encore inconnu à se constituer dans l'autre. Et où petit tas apparaît comme reste de cette opération. Je vous ferai remarquer en passant que l'alternative où notre pratique est fautive, où elle suppose cela, n'est pas une alternative exclusive. Notre pratique peut se permettre d'être en partie fautive par rapport à elle-même. Et qu'il y ait un résidu, puisque justement c'est celui-là qui est prévu. Grande présomption que nous ne risquons que fort peu à nous engager dans une formalisation qui s'impose comme aussi nécessaire. Mais ce rapport de S à A il faut bien le situer comme dépassant de beaucoup dans sa complexité. Simple, inaugural, ce que ceux qui nous ont légué la définition du signifiant, croient de leur devoir de poser au principe du jeu qu'ils organisent, à savoir la notion de communication. La communication comme telle n'est pas ce qui est ici primitif, puisque à l'origine, Grand Est n'a rien communiqué pour la raison que tous les instruments de la communication sont de l'autre côté, champ de l'autre. Et qu'il a à les recevoir de lui. Comme je l'ai dit depuis toujours, ceci a pour suite et conséquence que toujours, principiellement, c'est de l'autre qu'il reçoit son propre message, la première émergence, celle qui s'inscrit dans ce tableau, n'est qu'un « qui suis-je » inconscient, puisqu'informulable, auquel répond, avant qu'il se formule, un « tu es ». C'est-à-dire qu'il reçoit d'abord son propre message sous une forme indexée, ai-je dit, depuis très longtemps. J'ajoute aujourd'hui, si vous entendez, qu'il le reçoit sous une forme d'abord interrompue. Il entend d'abord un tu es sans attribut. Et pourtant, si interrompu que soit ce message, et donc si insuffisant, il n'est jamais informe. À partir de ce fait que le langage existe, dans le réel, qu'il est en cours, en circulation. Et qu'à son propos, à lui, le S, dans son interrogation supposée primitive, qu'à son propos, beaucoup de choses en ce langage sont d'ores et déjà réglées. Or, pour reprendre ma phrase de tout à l'heure, que ce n'est pas seulement par hypothèse, une hypothèse que j'ai fondée dans notre praxis, mais l'identifiant à cette praxis et jusqu'à ses limites, pour reprendre cette phrase, je dirais que le fait observable et pourquoi si mal observé, c'est là la question majeur que l'expérience nous offre, le fait observable, nous montre le jeu autonome de la parole tel qu'il est dans ce schéma supposé. Je pense qu'il y a ici assez de mer non atteinte de surdité pour savoir qu'un très petit enfant à l'âge où la phase du miroir est loin d'avoir clos son œuvre, qu'un très petit enfant, dès qu'il possède quelques mots, avant son sommeil, monologue. Le temps m'empêche aujourd'hui de vous en lire une grande page. Je vous en promets quelques satisfactions la fois prochaine ou la suivante, quand assurément je ne manquerai pas de le faire. Le bonheur fait qu'après que mon ami Roman Jacobson ait supplié pendant 10 ans toutes ses élèves prégnantes de mettre dans la nurserie un magnétophone, la chose ne se soit faite qu'il y a environ 2 ou 3 ans. Grâce à quoi nous avons enfin une publication d'un de ces monologues primordiaux. Je vous le répète, vous en aurez quelques satisfactions, si je vous le fais un peu attendre, c'est qu'à la vérité, il est propice à montrer bien d'autres choses que ce que j'ai à délinéer aujourd'hui. Il faut même, pour ce que j'ai à délinéer aujourd'hui, évoquer. Des références. Des distances dont les faits que je ne puisse le faire que sans trop savoir ce qui peut y répondre dans votre connaissance montre à quel point c'est notre destin de devoir nous déplacer dans un champ quoi qu'on en pense, et quelques dépenses de cours et de conférences qu'il soit fait, votre éducation n'est rien moins qu'assurée. Quoi qu'il en soit, si certains ici se souviennent de ce que Piaget appelle le langage égocentrique, auquel je ne sais si nous pouvons en revenir cette année, je pense que vous savez ce que c'est et que sous cette dénomination, peut-être défendable, mais assurément propice à toutes sortes de malentendus, il y a par exemple cette caractéristique que le langage égocentrique, à savoir ces sortes de monologues auxquels un enfant se livre tout haut, mis avec quelques camarades dans une tâche commune, qui est très évidemment un monologue tourné vers lui-même, ne peut se produire que justement dans cette certaine communauté. Ce n'est pas là objecter à la qualification d'égocentrique. Si c'est égocentrique, on en précisait le sens. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de l'égocentrisme, il peut paraître frappant que le sujet comme énoncé soit tellement souvent élité. Je ne rappelle cette référence que peut-être pour vous inciter à reprendre contact et connaissance avec le phénomène dans les textes piagétiques, à toutes fins utiles pour l'avenir, mais aussi pour vous noter qu'au moins un problème se pose de situer, savoir ce qu'est ce monologue hypnopompique et tout à fait primitif par rapport à cette manifestation, comme vous le savez, d'un stade beaucoup ultérieur. D'ores et déjà, je vous indique que concernant ces problèmes, comme vous le voyez, de genèse et de développement, notre fameux schéma, qui nous a tellement tanné pendant des années, reprendra sa valeur. Quoi qu'il en soit, ce monologue du petit enfant dont je vous parle ne se produit jamais quand quelqu'un d'autre est là. Frère cadet, un autre babille dans la chambre, suffisent pour qu'il ne se produise pas. Bien d'autres caractères indiquent que ce qui se passe à ce niveau, dont vous le verrez, il est si étonnamment révélateur. De la précocité des tensions dénommées comme primordiales dans l'inconscient, nous ne pouvons douter d'avoir là quelque chose dans tout point analogue à la fonction du rêve. Tout se passe sur l'autre scène avec l'accent que j'ai donné à ce terme. Et ne devons-nous pas être guidé ici par la petite porte même, ça n'est jamais une mauvaise entrée par laquelle je vous introduis ici au problème, c'est à savoir concernant ce dont il s'agit, à savoir la constitution du petit tas du reste, peut voir qu'en tout cas, ce phénomène, si ces conditions sont bien celles que je vous dis, nous ne l'avons, nous, qu'à l'état de reste, c'est-à-dire sur la bande du magnétophone. Autrement, nous avons tout au plus le murmure lointain, toujours prêt à s'interrompre à notre apparition. Est-ce que ceci ne nous introduit pas à considérer que quelque voie nous est offerte à saisir que pour le sujet en train de se constituer, c'est aussi du côté d'une voie détachée de son support que nous devons chercher ce reste. Faites très attention. Il ne faut pas ici aller trop vite. Tout ce que le sujet reçoit de l'autre, par le langage, l'expérience ordinaire est qu'il le reçoit sous une forme vocale. Mais nous savons très bien expérience, qui n'est pas tellement rare encore qu'on évoque toujours des cas éclatants, Hélène Keller, qu'il y a d'autres voix que vocales pour recevoir le langage, que le langage n'est pas vocalisation. Pourtant, je crois que nous pouvons nous avancer dans le sens qu'un rapport plus que d'accident lie le langage à une sonorité. Et nous croirons peut-être même avancer dans la bonne voie, à essayer d'articuler les choses de près, en qualifiant cette sonorité, par exemple, d'instrumental. Il est un fait que si la physiologie nous ouvre la voie, nous ne savons pas tout sur le fonctionnement de notre oreille, mais tout de même, savons que le limaçon est un résonateur. Résonateur complexe ou composé, si vous voulez, mais enfin un résonateur, même composé, ce qui compose, en composition de résonateurs élémentaires. Ceci nous mène dans une voie qui est celle-ci que le propre de la résonance Et que c'est l'appareil qui domine. C'est l'appareil qui résonne. Il ne résonne pas à n'importe quoi. Il résonne, si vous voulez, pour ne pas compliquer les choses, qu'à sa note, ou sa fréquence propre. Ceci nous mène à une certaine remarque concernant la sorte de résonateur auquel nous avons affaire, j'entends concrètement, dans l'organisation de l'appareil sensoriel en question, notre oreille. Un résonateur, pas n'importe lequel. Un résonateur du type tuyau. La longueur du parcours intéressé dans un certain retour que fait la vibration apportée au niveau de la fenêtre ronde, passant de la rampe tympanique à la rampe vestibulaire, paraît nettement lié à la longueur de l'espace parcouru. Dans une conduite close qui opère donc à la façon, si vous voulez, de quelque tuyau, quel qu'il soit, flûte ou orgue. Évidemment, la chose est compliquée, cet appareil ne ressemblant à aucun autre instrument de musique. C'est un tuyau qui serait, si je puis dire, un tuyau à touche. Dans ce sens, il semble que ce soit la cellule posée en position de corde, mais qui ne fonctionne pas comme une corde, qui est intéressée au point de retour de l'onde, qui se charge de connoter la résonance intéressée. Je m'excuse d'autant plus de ce détour qu'il est bien certain que ce n'est pas dans ce sens que nous trouverons le dernier mot des choses. Ce rappel est quand même destiné à actualiser ceci, que dans la forme organique, il y a quelque chose qui nous paraît apparenté à ces données primaires, topologiques, transspatiales, qui nous ont fait très spécialement nous intéresser à la forme la plus élémentaire de la constitution créée et créatrice vide, celle que nous avons pour vous apologétiquement incarnée dans l'histoire du pot. Un pot aussi est un tuyau et qui peut résonner. Et la question de ce que nous avons dit, que 10 pots, tout à fait pareil, ne manquent absolument pas de s'imposer comme différents individuellement, Mais que la question peut se poser de savoir si quand on met l'un à la place de l'autre, le vide qui fut successivement au cœur de chacun d'entre eux n'est pas toujours le même. Or, c'est bien du commandement qu'impose le vide au cœur du tuyau acoustique à tous ce qui peut venir y résonner de cette réalité qui s'ouvre sur un pas ultérieur de notre démarche mais qui n'est pas si simple à définir, à savoir ce qu'on appelle un souffle, à savoir qu'à tous les souffles possibles, une flûte titiller au niveau de telle de ses ouvertures impose la même vibration, si ce n'est pas la voix, s'indique pour ce quelque chose où le petit tas dont il s'agit fonctionne dans une réelle fonction de médiation. Eh bien, ne cédons pas à cette illusion. Tout ceci n'a d'intérêt que de métaphore. Si la voix, au sens où nous l'entendons, a une importance, ce n'est pas de raisonner dans aucun vide spatial. C'est pour autant que la forme la plus simple émission dans ce qu'on appelle linguistiquement sa fonction phatique, qu'on croit être de la simple prise de contact, et qui est bien autre chose. Résonne dans un vide. Qui est le vide de l'autre comme tel. L'ex nihilo, à proprement parler. La voix répond à ce qui se dit, mais elle ne peut pas en répondre. Autrement dit, pour qu'elle réponde, nous devons incorporer la voix comme l'altérité de ce qui se dit. C'est bien pour cela, et non pour autre chose, que détachée de nous, notre voix nous apparaît avec un son étranger. Il est de la structure de l'autre de constituer un certain vide, le vide de son manque de garantie. La vérité entre dans le monde avec le signifiant et avant tout contrôle. Elle s'éprouve, elle se renvoie. Seulement par ses échos dans le réel. Or, c'est dans ce vide que la voix, en tant que distincte des sonorités, voit non pas modulée, mais articulée, résonne. La voix dont il s'agit, c'est la voix en tant qu'impérative, en tant qu'elle réclame obéissance ou conviction. Qu'elle se situe, non par rapport à la musique, mais par rapport à la parole. C'est intéressant de voir la distance qu'il peut y avoir à propos de cette méconnaissance bien connue de la voix enregistrée entre l'expérience du chanteur et celle de l'orateur. Je propose à ceux qui voudront se faire les enquêteurs bénévoles de ceci, de le faire, je n'ai pas eu le temps de le faire moi-même. Mais je crois que c'est ici que nous touchons du doigt cette distincte forme d'identification que je n'ai pu aborder l'année dernière. Et qui fait que l'identification de la voix nous donne au moins le premier modèle qui fait que dans certains cas, nous ne parlons pas de la même identification que dans les autres, que nous parlons d'Ein Verleibung, d'incorporation. Les psychanalystes de la bonne génération s'en étaient aperçus. Il y a un monsieur, Isaac Aubert, qui fit, dans l'année 20 de l'International Journal, un très remarquable article d'ailleurs, à mon sens, n'a d'intérêt que du besoin qui s'imposait à lui de donner une image véritablement frappante de ce qu'était de distinct ce type d'identification. Car vous allez le voir, il va le chercher dans quelque chose dont les rapports, vous le constaterez, sont singulièrement plus lointains du phénomène que les voies par lesquelles moi j'essaie de vous faire passer. Il s'intéresse à un petit animal qui s'appelle, si mon souvenir est bon, parce que je n'ai pas eu le temps de le recontrôler, c'est un vieux souvenir, qui s'appelle, je crois, Daphne, et qui, sans être du tout une crevette, représentez-le comme y ressemblant sensiblement. Quoi qu'il en soit, cet animal, qui vit dans les eaux salines, d'habitude, comme nous dirions dans notre langage, de se tamponner le coquillard, un moment de ses métamorphoses avec de menus grains de sable, de se les introduire dans ce qu'elle a, comme appareil réduit dit statoacoustique, autrement dit dans l'utricule, car il ne bénéficie pas de notre prodigieux maçon, dans l'utricule s'étant introduit ces parcelles de sable, il importe qu'elles se les y mettent du dehors, car elle ne les produit d'elle-même en aucun cas. L'utricule se referme, et la voilà qui aura à l'intérieur les petits grelots nécessaires à son équilibration. Elle les a amenés de l'extérieur. Avouez que le rapport est lointain avec la constitution du surmoi. Néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est que M. Isaacover n'ait pas cru pouvoir trouver de meilleure comparaison que de se référer à cette opération. Vous savez qu'on avait tout de même, j'espère, entendu en vous s'éveiller des échos de vos livres de physiologie, et vous savez que des expérimentateurs malicieux substitué du petit grain de ferraille à ces grains de sable, histoire de s'amuser ensuite avec la daphnie et un aimant. Une voix donc ne s'assimile pas. Mais qu'elle s'incorpore, c'est là ce qui peut lui donner une fonction à modeler notre vide. Et nous retrouvons ici mon instrument de l'autre jour, le chauffard de la synagogue. Ce qui donne son sens à cette possibilité qu'un instant il puisse être tout musical. Est-ce même une musique que cette quinte élémentaire, cet écart de quinte qui est le sien, qu'il puisse être substitut de la parole en arrachant puissamment notre oreille à toutes ces harmonies coutumières. Il modèle le lieu de notre angoisse, mais observons-le seulement après que le désir de l'autre ait pris forme de commandement. C'est pourquoi il peut jouer sa fonction éminente à donner à l'angoisse sa résolution. Qui s'appelle culpabilité ou pardon. Qui est justement l'introduction d'un autre ordre. Ici, que le désir soit manque est fondamental. Nous dirons que c'est sa faute principielle. Faute au sens de quelque chose qui fait faute. Changer le sens de cette faute en lui donnant un contenu dans ce qui est l'articulation de quoi ? De l'autre. Laissons-le suspendu. Et voilà qui explique la naissance de la culpabilité et son rapport avec l'angoisse. Pour savoir ce qu'on peut en faire, il faut que je vous entraîne dans un champ qui n'est pas celui de cette année, mais qu'il faut, sur lequel il faut ici un peu mordre. J'ai dit que je ne savais pas ce qui, dans le chauffard, disons, clameur de la culpabilité s'articule de l'autre qui couvre l'angoisse. Si notre formule est juste, quelque chose, comme le désir de l'autre, doit y être intéressé. Je me donne encore 3 minutes pour introduire quelque chose qui prépare les voies. La prochaine fois, nous pourrons faire notre pas prochain. C'est à vous dire que ce qui est ici le plus favorablement prêt à s'éclairer réciproquement, c'est la notion du sacrifice. Il y a d'autres que moi se sont essayés à aborder de ce qui est en jeu dans le sacrifice. Je vous dirai, le temps nous presse brièvement, que le sacrifice est destiné non pas du tout à l'offrande, ni au don qui se propage dans une bien autre dimension, mais à la capture de l'autre comme tel dans le réseau du désir. La chose serait déjà perceptible, à savoir ce à quoi il se réduit pour nous sur le plan éthique. Il est d'expérience commune que nous ne vivons pas notre vie, qui que nous soyons, sans offrir sans cesse à je ne sais quelle divinité inconnue le sacrifice de quelques petites mutilations que nous imposons, valables ou non, au champ de nos désirs. Les sous-jacences de l'opération ne sont pas toutes lisibles. Qu'il s'agisse de quelque chose qui se rapporte à petit a comme le pôle de notre désir, ceci n'est pas douteux. Mais il faudra la prochaine fois pour que je vous montre qu'il y faut quelque chose de plus. Et nommément, qu'à ce rendez-vous, j'aurai grand convent d'obsessionnels, et nommément que ce petit tas est quelque chose déjà consacré. Ceci ne peut se concevoir qu'à reprendre dans sa forme originelle ce don. Il s'agit concernant le sacrifice. Nous avons sans doute, quant à nous, perdu nos dieux dans la grande foire civilisatrice. Mais un temps assez prolongé, à l'origine de tous les peuples, montre qu'on avait avec eux maille à partir, comme à des personnes du réel. Non pas des dieux tout puissants, mais des dieux puissants là où ils étaient. Toute la question était de savoir si ces dieux désiraient quelque chose. Le sacrifice, ça consiste à faire comme s'il désirait comme nous. Et s'il désire comme nous, petit à un, à la même structure. Ça ne veut pas dire que ce qu'on leur sacrifie, ils vont le bouffer, ni même que ça puisse leur servir à quelque chose, mais l'important est qu'ils le désirent, et je dirais plus, que ça ne les angoisse pas. Car il y a une chose que jusqu'à présent, personne, je crois, n'a résolu d'une façon satisfaisante. Les victimes, toujours, devaient être sans tâche. Or, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. De la tâche au niveau du champ spéculaire. Avec la tâche, à part se prépare la possibilité de résurgence dans le champ du désir de ce qu'il y a derrière, d'occulté. À savoir, dans l'occasion, cet œil, dont le rapport avec ce champ doit nécessairement être évité pour que le désir puisse y rester avec cette possibilité ubiquiste, voire vagabonde, qui en tous les cas lui permet de se dérober à l'angoisse. Apprivoiser les dieux dans le piège du désir est essentiel et ne pas éveiller l'angoisse. Le temps me force de terminer ici. Vous verrez que si lyrique que puisse vous apparaître cette dernière excursion, elle nous servira de guide dans des réalités beaucoup plus quotidiennes dans notre expérience.